Bonjour, vous êtes bien sur Radio Vassivière, ici Émilie, depuis la gare de Felletin pour la 10e de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission spéciale rien que pour Radio Vassivière. Une émission pour ceux qui s'occupent des enfants, que vous soyez parents, grands-parents, tontons, tata, ou bien que vous vous occupiez des enfants dans votre travail. Et aussi pour ceux qui s'y préparent à avoir des enfants. Alors, eh bien, j'espère que vous passez un très bel été et que vous profitez bien d'avoir vos enfants avec vous, ou que vous leur avez trouvé des super colonies de vacances, voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces enfants qu'on dit difficiles, atypique, neuroatypique, on a inventé aussi. On invente plein de mots maintenant pour essayer de trouver c'est quoi le problème. Hein, c'est quoi le problème avec cet enfant avec qui, eh bien, je suis en difficulté en fait. Enfant difficile, c'est souvent l'adulte qui est en difficulté en vrai. Alors je vais essayer quelque chose de nouveau parce que je suis quand même à la radio et je vais essayer de rendre cette émission de plus en plus radiophonique. Et j'écoute Maxime qui me dit « Tiens, si tu faisais un tapis ?» Alors voilà, je vais essayer ce tapis-là, du violon, en même temps que je parle. Donc je vous disais, on a trouvé plein de mots, les spécialistes trouvent plein de mots pour nous parler de ces enfants avec qui on a du mal. Voilà. Alors, attention aux étiquettes. Il est intéressant d'avoir un autre regard. Il est intéressant de pouvoir poser des mots parce que ça peut venir aider à mieux comprendre l'enfant et à aller vers des solutions. Par contre, le risque de toutes ces étiquettes hypersensibles, hyperactifs, TDAHA, enfin je sais qu'il y en a plein, voilà. Alors je dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il y a, excusez-moi, qu'il y a un risque, ça serait de s'attacher à l'étiquette, tant l'enfant que les parents, hein. Parce que, je peux pas, je suis hyperactif, hein. C'est un petit peu comme, je peux pas, j'ai piscine, je peux pas, j'ai poney, hein. Voilà, moi j'ai connu des enfants aussi à l'école, hein. Je peux pas, je suis dyslexique. Non, je peux pas, je suis dyscalculique. Vraiment, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà, donc le risque, c'est que l'enfant vienne se coller une étiquette. Hein, et puis les étiquettes, des fois, elles ont de la bonne colle. Et puis, on s'adapte bien à ça, puis ça fait des bonnes excuses. Un autre risque, c'est que le parent colle cette étiquette, lui, à l'enfant, et vienne se mettre un petit peu dans une certaine prison mentale de ça y est, maintenant on sait. Alors, il y a l'autisme aussi, hein, il y a ça aussi. Il est Asperger, voilà, il est Asperger, c'est comme ça. Hein, on va faire avec. Et la fatalité, c'est ça que j'aime pas trop. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants difficiles? Eh bien, la plupart du temps, ces enfants difficiles vont faire des crises. Ou bien ils vont avoir des difficultés à se concentrer. On va avoir l'impression qu'on leur donne quelque chose, hop, déjà ils ont déménagé. Des enfants qui font beaucoup de bruit, qui vont partout. Ou des enfants qui sont très calmes et qui, bing, d'un seul coup, te font une crise. Comme ça, on ne sait pas d'où elle vient. Elle débarque, c'est fort, c'est une tempête. Il va hurler, il va vouloir mettre des coups. Oui, c'est pas facile, hein, parce que je suis moi-même maman d'un enfant qui pourrait passer dans une de ces cases et d'un autre enfant qui est beaucoup plus facile. Donc, je sais que, c'est pas facile. Je ne nie pas la difficulté, bien au contraire, je sais qu'elle est réelle. Mais j'ai envie d'apporter un petit peu d'eau au moulin sur ce sujet-là. Alors déjà... Est-ce que c'est un vrai problème que l'enfant il fasse une crise? Voilà. Souvent, le problème, ce n'est pas la crise de l'enfant, c'est l'absence de compréhension que l'adulte va en avoir et donc l'adulte qui va être démuni pour pouvoir écouter, accompagner pleinement cette émotion qui, en fait, est une guérison. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres émissions. L'enfant qui se met en colère, qui rentre dans une grosse frustration, qui pleure fort ou qui s'indigne, et dans une guérison. C'est sa manière à lui de faire sortir. L'émotion, c'est fait pour sortir, c'est un mouvement. Elle n'a pas à rester en lui. Et il va aller mieux une fois qu'elle sera complètement sortie de lui. Seulement, voilà, nous, adultes, eh bien, c'est difficile. Souvent, c'est difficile. Ces cris, ces pleurs, cette manière de parler, ces coups qui peuvent partir. Hein, parce que, eh bien, nous-mêmes... Souvent, nos grosses émotions comme ça, si on a pu les exprimer, elles n'ont pas été écoutées, elles ont été sanctionnées. Voilà, il y a eu plein de choses. Et surtout, l'absence de compréhension qu'il s'agit bien d'un système de guérison et qu'il ira mieux après l'enfant. Et qu'à chaque fois qu'on va le distraire ou lui demander absolument d'arrêter, faire tout pour qu'il l'arrête, eh bien, on ne fait que reporter. Et plus l'enfant, disons qu'il a beaucoup de colère, par exemple, eh bien, plus il va l'enfouir à l'intérieur de lui, plus cette colère, elle devient terrible quelque part. Donc, finalement, ces enfants difficiles, on pourrait dire qu'ils ont des gros besoins de décharger leurs émotions difficiles avant tout. Et donc, ils ont un grand besoin d'être accompagnés, écoutés et compris. Je l'ai déjà dit, la colère, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, la colère est accompagnée d'un sentiment d'être complètement incompris, d'être laissé seul à cet état-là. Donc déjà, une première approche, si vous avez un enfant difficile, eh bien, que comprenez-vous de ses émotions? Avez-vous compris qu'il s'agit de guérir? Et comment l'accompagnez-vous? Êtes-vous capable de l'accompagner jusqu'au bout? Et être capable, c'est à la fois comprendre ce qui se passe pour lui, comprendre et savoir comment l'accompagner, et avoir bien sûr les ressources en soi. Puisque pour accompagner ces tempêtes émotionnelles, on a besoin d'être solide, on a besoin d'être le roc qui va pouvoir écouter tout ça. Voilà. Mais donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la tempête émotionnelle n'est pas un problème en soi, puisque c'est une solution. Le problème, c'est notre absence de compréhension et ce sentiment d'être démuni face à ça. Et je sais que plus l'enfant est grand, âgé, plus c'est difficile, parce que ça va être de plus en plus violent. Voilà, première chose. Ensuite, un enfant qui ne peut pas se concentrer, eh bien, on va revenir là. En fait, un enfant ne peut pas se concentrer s'il a une surcharge émotionnelle qui le coupe, en fait, de sa capacité à être concentré et créatif et à apprendre. Voilà. Donc, la solution sera toujours la même. L'enfant qui est dit hyperactif ou qui ne sait pas se concentrer est un enfant qui a besoin de décharger ses émotions. Donc ça, c'est sur le plan émotionnel. Mais nous sommes des êtres qui vivons sur plusieurs plans. Le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Donc, on peut aussi aller voir ailleurs. Notamment, une petite parenthèse sur le ailleurs, sur le plan physique. Et oui, il se passe bien des choses dans le cerveau. Ça, les neurosciences nous parlent de ça. Il se passe bien quelque chose dans le cerveau. Voilà, ils nous disent tous les mots. Alors moi, je ne suis pas du tout là pour vous parler de ça. Allez lire les livres de Catherine Guéguin ou d'autres. Tous ces mots scientifiques, je les ai oubliés malgré ma formation scientifique. Mais je voudrais vous parler aussi en fait, de ces enfants qui vont être très sensibles, voilà, les différents enfants atypiques. Eh bien, ils ont aussi une grande sensibilité à la pollution et aux différentes pollutions. Et au niveau du cerveau, il peut se passer des choses qui ne vont pas parce que l'enfant va avoir une charge de métaux toxiques. Alors, je pourrais faire une émission complète sur le sujet là, c'est pas l'objet. Juste si vous êtes intéressé par ça, allez écouter ce que je raconte sur mon site internet emilieroudier.fr ou bien sur mes posts Instagram, vous verrez la clé que je propose à chaque fois, il va s'appeler Anthony William. Mais donc c'est une piste en fait, peut-être vous y aviez déjà pensé à ça. Et on peut voir qu'il y a une intoxication, déjà un enfant très anxieux et aussi un enfant qui va avoir des cernes noires qui durent, pas celles liées à un manque de sommeil. Et bien là c'est aussi un petit point d'alerte pour ça. Bon, il y en a d'autres, mais là aujourd'hui je voulais juste vous donner cette piste-là. Est-ce qu'il se pourrait que l'enfant ait reçu des métaux toxiques, sachant qu'il ait pu le recevoir aussi des parents directement? Ça a pu se faire au moment de la conception, déjà, c'est pas forcément dans lui depuis qu'il est né, voilà. Ces enfants peuvent être aussi très sensibles à toutes les toxiques qu'on va trouver dans l'alimentation, les insecticides, les pesticides et tout ça. Ils peuvent être aussi très sensibles à la pollution électromagnétique. Alors ce matin, en stage, je mesurais des téléphones portables avec un appareil professionnel fait pour ça, qui mesure les hautes fréquences. Eh bien, aujourd'hui, à savoir, il y a des portables dont le mode avion ne fonctionne plus. Et là, j'en ai mesuré un ce matin qui était constamment à plus de 1,20 volts par mètre. Alors, bien sûr, si vous ne connaissez pas des petites bases en physique pour comprendre ça, ça vous rendez pas compte, c'est beaucoup. Voilà. Pour info, j'habite à 300 mètres de l'antenne relais de Feltin. Au pire, dans mon grenier, ça monte à 0,30. Voilà. Et dans le sous-sol, on est à 0,2 parce qu'on est protégé. Donc là aussi, c'est pas parce qu'on est proche qu'on va prendre tout ça. Mais on peut s'inquiéter des antennes. Mais là, voilà, je vous parle bien d'un portable qui, en mode avion, est constamment à 1,20, 1,30. Et notamment les iPhones, pour ne pas les citer, qui, là, il y en avait un ce matin, juste allumé, même pas les données mobiles allumées, eh bien, il était à plus de 3 volts par mètre en continu. Oui, oui, oui. Donc là, il ne s'agit pas de tomber dans une psychose, mais avoir un petit peu, savoir ce qu'il en est du téléphone qu'on laisse constamment. Puis je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont ce téléphone avec les données mobiles allumées. Là, on est à plus de 6 volts par mètre. Eh bien, ça ne va pas aider parce que quand il y a une grande sensibilité, eh bien, il y a aussi une grande sensibilité à cette pollution-là. Voilà. Ces enfants sont aussi souvent très sensibles à la pollution sonore. Le bruit vient vraiment les incommoder, c'est une agression. Un enfant hypersensible qui est dans un endroit qui fait trop de bruit, c'est une véritable agression, vraiment. C'est comme s'il se prenait des grosses claques. Et ils sont sensibles aussi aux agressions visuelles. Ouais. Et puis voilà, j'ouvrirai juste une parenthèse à cet endroit-là. Et aussi sensible à tout ce qui va être énergie du lieu. Énergie des personnes, énergie du lieu. Donc c'est aussi intéressant, au-delà du besoin de décharge émotionnelle, d'aller voir ce côté-là, que ces enfants sont très sensibles aux différentes pollutions qui les entourent et que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on a quand même un pouvoir de faire diminuer cette pollution-là dans leur environnement. Mmh. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite à ce moment-là? Oui, un besoin pour les parents, quand on est parent d'enfants difficiles, eh bien, c'est d'avoir des espaces d'écoute, de pouvoir être écouté par d'autres et partagé avec d'autres aussi qui vivent la même chose. Et donc, depuis le début de ces émissions, je vous ai partagé différents outils qui viennent de Patty Whipfler. Alors je le dis, son livre Listen est pour l'instant en anglais. Il sera disponible en français normalement en 2023. Youhou ! Mais sur mon site emilyroudier.fr, vous pouvez déjà trouver quelques textes traduits et sur le site Grandir main dans la main. Eh bien, il y a un autre outil de Patty Whipfler dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit de la co-écoute. Qu'est-ce que c'est que la co-écoute ? Vous allez voir, c'est tout simple, mais encore une fois, c'est puissant. Et moi, j'aime bien tout ce qui est simple et puissant. Alors la co-écoute, il s'agit de se mettre à deux avec un adulte, ça peut se faire par téléphone, et de se mettre d'accord sur un temps. Imaginons que nous disposons de 10 minutes, eh bien on va répartir le temps en deux. Donc il va y avoir deux temps de co-écoute de 5 minutes. D'abord, un des deux va parler. Parler pendant 5 minutes en étant complètement écouté, ça veut dire que l'autre, il l'écoute, il ne fait que l'écouter. Et ça, c'est pas facile parce qu'on les voit arriver, nos gros sabots, nous qui avons toujours envie de dire un truc. Ah oui, ça me rappelle ma copine bidule. Ah oui, ça me rappelle ça. Moi, quand j'ai vécu ça, j'ai fait comme ça. Ah, mais tu pourrais lire ce livre, vraiment, ça t'aiderait, hein, c'est sûr. Voilà, non, mais tu sais, avec moi, vois ce que je vois de ton enfant. Bon, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Voilà. Toutes ces petites voix, on peut les observer là d'un seul coup parce qu'on les fait taire, elles n'ont plus le droit de parler. Voilà. Donc, il s'agit d'être à l'écoute, en se taisant, vraiment, en se taisant. Allez, j'enlève mon tapis, je parle toute seule maintenant. Donc, il y en a un qui parle et l'autre qui écoute, en se taisant. Mais si on est en présence et pas par téléphone, on va, dans tous les cas, même si on est par téléphone, on va faire de notre mieux pour montrer une présence chaleureuse, vraiment une présence empathique qui écoute. Oui, et donc ça peut se traduire par... Il y a quelques expressions du corps qui vont être là pour montrer « je suis là ». Et là, la petite difficulté, ça va être de ne pas ajouter les expressions du corps qui disent « ah oui, oui, bien sûr, t'as raison » ou « ah bah non, pas du tout, bah là, tu te trompes complètement », faire les gros yeux, voilà. Donc, faire de son mieux pour être à l'écoute de l'autre. Et donc, on met le chrono, on lance. La personne qui parle, elle peut partir de quelque chose voilà, qu'elle a vécu de difficile. Et elle se met à parler et elle suit un flow. L'idée, c'est de prendre un fil, le fil d'une pelote de laine qu'on a à défaire, et de se faire confiance qu'on va démêler nous-mêmes cette pelote de laine. Et ça n'a pas besoin d'être intelligible, ce qu'on raconte. Ça n'a vraiment pas besoin de l'être. Juste, on suit un fil, on fait sortir. Et je vous assure, pour le faire, faire à des personnes, à des groupes, eh bien, il y a des choses qui viennent, on ne s'y attendait pas. On est surpris de cette pelote de laine qu'on peut prendre nous-mêmes et des solutions qu'on va s'apporter et de voir à quel point, hop, on fait retomber des choses qui nous paraissaient ultra bouillantes. Donc on parle pendant 5 minutes, hop, il y a un bip qui arrive. Alors je dis 5 minutes, par exemple, 5 minutes, bon c'est facile 5 minutes, mais on peut faire plus, on peut faire moins. Il y a un bip qui arrive, alors là, eh bien, celui qui parlait va finir sa phrase, il ne va pas réembrayer, il s'arrête là. Et celui qui écoutait va poser une question pour ramener à l'ici et maintenant. Quelle est la couleur de tes chaussettes? Comment s'appelle ton chien? Des choses vraiment de base, on n'est ni dans la culture générale de quelle est la capitale du Congo, ni qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Voilà, juste là, ici, maintenant. Et hyper important, il y a une confidentialité totale. Ce qui vient d'être dit n'est en aucun cas repris. Ça veut dire que même si, voilà, imaginons, je sais pas, on parle d'un problème qu'on a où on n'arrive pas à supporter la colère d'un de nos enfants, et bien cette personne, il n'est pas question. C'est hors de question qu'à un moment, elle puisse dire « Ah oui, mais avec ce que tu m'as dit l'autre soir, et comment ça va au fait avec la colère de ton grand, là ?» Non, ce qui est dit, là, c'est la confidentialité totale, on n'y revient jamais. Alors bien sûr, si celui qui parle, il a envie d'échanger à un autre moment, et bien oui, c'est lui qui va ramener le sujet sur le tapis. Mais celui qui a écouté ne reparle jamais de ça, ni à la personne, ni à d'autres, évidemment. Voilà, c'est ce qui permet aussi de se sentir en sécurité pour libérer pleinement la parole. Et après, on échange. Celui qui est écouté devient celui qui parle. Celui qui parle devient celui qui est écouté. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, ça a de multiples intérêts. Le premier, eh bien, ça nous permet, nous, de faire redescendre la cocotte. Voilà. Alors, il peut y avoir des temps écoute d'urgence. Hein. Moi, ça peut me rappeler à m'arriver de prendre le téléphone. Hop, 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 j'ai besoin que tu m'écoutes, là. C'est pas long. Et donc là, on va pas faire tout le protocole si c'est avec mon conjoint. Juste lui dire, hop, j'ai besoin que tu m'écoutes. Hop, il m'écoute et ça va mieux déjà. Donc, c'est de la décharge aussi de l'adulte. Alors, il ne s'agit pas de s'apitoyer. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans sa blessure abandonnique et d'en faire tout un plat. Non, c'est juste se décharger de quelque chose qui était difficile là pour nous. Et l'autre, celui qui écoute, il ne s'agit pas de s'en charger, hein. Il ne s'agit pas de « tiens, j'ai un gros fardeau, je te le refile ». Non, celui qui écoute, il écoute pleinement, mais il ne prend pas le fardeau de l'autre. Hein. Donc, et après, quand on est écouté comme ça, eh bien, on a plus de patience et d'aptitude nous-mêmes à écouter les enfants et à écouter leur décharge émotionnelle. Voilà. Donc, ça vient remplir notre réservoir de patience et aussi notre réservoir d'amour. C'est vraiment un super outil. Ça peut vous paraître bébête comme ça, mais essayez-le. Alors, ça peut se faire en couple. Ça a un intérêt, vraiment. Et c'est quand même chouette aussi si on peut trouver d'autres personnes qu'on connaît peu, mais qui serait d'accord pour faire avec nous un partenariat d'écoute. Et par exemple, on se met d'accord que tous les jeudis à 16h30, eh ben, c'est notre temps de co-écoute. Et aussi qu'on peut s'appeler en cas d'urgence. Voilà. Donc, plus moi je suis écoutée, plus j'augmente ma capacité à écouter. Et mon sujet aujourd'hui, eh ben, c'était les enfants difficiles, parce qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Allez, on se fait une...
maintenant.
Allez, je la refais, j'avais pas assez monté
musique
le son.
Musique maintenant.
Voilà. Une musique maintenant. Alors, je vous ai choisi la douce Cécile Naïla avec Rosa Illumina. C'est parti, Cécile.
Canto es
C'était Cécile Naïla, Rosa Illumina, de son premier album qui s'appelle Source. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Cécile Naïla, vous la connaissez peut-être puisqu'elle habitait à Ardeilla, à Motte, il y a quelques années, pour tous ceux qui ont eu la chance de la croiser. Voilà, alors revenons ici et maintenant à Felletin pour la 10e émission de Élève-toi
avec les enfants.
Élève-toi avec les enfants. Aujourd'hui, je vous parle des enfants dits difficiles, hypersensibles, hyperactifs, hyper tout plein de choses. Et puis, j'ai envie tout de suite de vous donner
un livre pour les parents.
Oh bah oui, un livre pour les parents, il s'appelle « L'enfant et la peur d'apprendre » de Serge Boismard. Ce livre, je l'ai utilisé quand j'étais avec des enfants très difficiles, puisque c'était en maison d'enfants avec des enfants placés par l'aide sociale. Eh bien, si vous êtes dans l'accompagnement des enfants dits difficiles, eh bien, il propose une belle piste autour des contes, de la mythologie, mais aussi de biographies de personnes très inspirantes comme John Lennon, Martin Luther King, Gandhi, enfin, on peut en trouver plein. Et il propose une approche assez simple d'écoute, de partage et d'écriture pour aider à débloquer des vieux dossiers, on va dire. Et oui, parce que l'enfant qui est en difficulté comme ça, eh ben, il est assis sur des gros dossiers. Des gros dossiers émotionnels. Et souvent, le gros dossier émotionnel le plus courant, on va dire, souvent le plus courant, voilà, je me répète, eh bien, c'est la naissance. La naissance. Si vous êtes parent d'un enfant difficile, essayez de vous rappeler, ah, la naissance, c'était comment ? Est-ce que c'était long ? Hein ? Est-ce qu'il a eu peur de rester coincé ? Est-ce qu'il y a eu une intervention d'urgence ? Est-ce qu'il y a eu une grosse peur pour la maman, pour l'enfant ? Est-ce qu'il y a eu... rien que le fait que ce soit long, en fait, l'enfant, il a pu se sentir coincé dans le col de l'utérus pendant longtemps et que ça garde une empreinte importante, vraiment. Exemple, moi, j'ai eu un accouchement qui a duré 31 heures avec la poche des os ouverte. Et je sais qu'un gros dossier, le gros dossier de mon fils, c'est ça, il est resté coincé, en fait, hein, dans le col de l'utérus pendant de nombreuses heures, avec une sensation de manquer d'eau, bien sûr. Et voilà, ça peut vraiment laisser une empreinte importante. Donc, comment s'est passée la grossesse ? Bon, la grossesse aussi, c'est un lapsus, je vais en parler après, mais évidemment, la grossesse aussi peut avoir joué là-dessus. Mais la naissance est vraiment un moment où il peut avoir une empreinte telle que le besoin de décharge par la suite est très, 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 très fort. Et si on était dans un modèle, disons, allez, pour caricaturer, autoritariste, où l'enfant ne pouvait pas pleurer, on l'a laissé pleurer seul. Il y a une grosse différence entre pleurer seul et pleurer en étant accompagné. Hein. Donc s'il a pleuré seul, ou bien si on était dans l'autre sens à tout faire pour le distraire, pour qu'il arrête de pleurer, eh bien il n'a pas pu pleurer ce gros moment difficile et ça n'a pas pu sortir et donc ça vient créer une empreinte. Et comme je vous le disais, c'est un tout, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir cette empreinte forte dans le vécu. Et si on ajoute des doses de métaux toxiques, plus une incompréhension des parents, voilà, on arrive vers des choses qui peuvent être un petit peu costauds. Voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces enfants-là ont très très peur. Si je prends les enfants hypersensibles notamment, ils ont très 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 peur. Ils ont peur de pas grand-chose. Et en aucun cas, nous allons devoir juger. Hein, t'as peur d'un rien ? Non. Ils ont peur, c'est comme ça. Et donc, ils ont très peur, notamment quand les parents sont trop autoritaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste pour autant, parce que sinon, on ne leur permet pas de décharger leurs émotions difficiles. Donc, il s'agit d'être ni l'un ni l'autre, mais une troisième voie qui est une écoute pleine d'amour, de douceur, de clarté. Allez, il y a plus de vidéos sur ma chaîne YouTube Émilie Roudier pour en savoir plus à ce sujet-là. Mais voilà, si vous êtes parent aussi d'un enfant difficile, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui lui fait peur ? Est-ce que moi, je lui fais peur ? Hein ? Et comment faire pour venir arrêter, atténuer en tout cas ça ? Voilà, allez, je vous lance un
défi pour les parents.
Ouais, mon défi, c'est est-ce que vous êtes capable d'écouter là sans parler ? Allez, essayez avec n'importe qui, là, votre collègue, votre mère, votre chérie, vos enfants. Essayez de prendre un moment pour écouter vraiment, sans parler, hein, sans se mettre dans le cas de la co-écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, mais juste voir, tiens, à quel point je suis capable de me taire, juste écouter et pas parler. Qu'est-ce que s'y passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'autre aussi ? Alors, je dis pas d'arrêter le dialogue, hein, mais de se mettre dans une posture vraiment où j'écoute, où je vais arrêter mon flot de parole à moi pour vraiment être dans l'écoute. Alors, je vous donne une info en avant-première. Les abonnés du Fabuleux Destin l'ont déjà reçu. Le 2 septembre, je ferai ma première représentation publique de Élève-toi toi-même. Le 2 septembre, au Fabuleux Destin en soirée. Alors, on pourrait appeler ça une conférence gesticulée, peut-être. Et en tout cas, voilà. Si ce que je raconte, ça vous parle, eh bien, vous pouvez réserver votre 2 septembre. Je vous souhaite un bel été. Je ne sais pas si ça sera des rediffusions au mois d'août ou si je vais réussir à caler des moments pour vous en faire des nouvelles. Et sinon, ça sera des nouvelles au mois de septembre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vous souhaite un merveilleux été avec ou sans les enfants. C'était la 10e de
Élève-toi
avec les enfants.
Et je vous dis à très bientôt.